La maison de l'investisseur, l'émission qui vous explique comment développer votre patrimoine immobilier avec Stéphane Descartiers, président fondateur de la maison de l'investisseur sur Radio Immo.
Bonjour et bienvenue dans la maison de l'investisseur. À mes côtés, Stéphane Descartiers pour répondre à vos questions investissement. Bonjour Stéphane.
Bonjour Charlotte, bonjour à tous.
Quelle est la devinette du mois ?
Alors, la devinette du mois, c'est le titre, on pourrait dire, de l'onanisme immobilier.
Un peu tapageur,
bon, je vous rassure tout de suite, hein, on ne va pas être graveleux. Il s'agit effectivement surtout de savoir si on peut s'auto-satisfaire en quelque sorte en immobilier, c'est-à-dire notamment se louer à soi-même et se vendre à soi-même. Donc deux notions effectivement en immobilier. Alors l'onanisme immobilier, c'est pas le terme juridique, hein, je vous rassure tout de suite, mais on pourrait le considérer effectivement comme ça.
Ne l'employez pas pour briller en société, ça pourrait faire clash. Très bien. Eh ben écoutez, moi je vous propose qu'on en parle tout de suite. La maison de l'investisseur, c'est parti.
La maison de l'investisseur, la devinette du mois.
Alors, retour sur le plateau de la maison de l'investisseur. Alors, se louer à soi-même, c'est autorisé ou pas ?
Oui, on peut. Alors, dans des cas effectivement très précis, il faut que ce soit... c'est encadré, il faut que ça corresponde effectivement à un besoin. La plupart du temps, l'autolocation, en quelque sorte, eh bien, ça appartient surtout au monde de l'immobilier commercial. Mmh. C'est-à-dire que bien souvent... Alors, Il y a eu quelques mois, notamment l'affaire Ferrand. Je ne sais pas si vous en souvenez, ça a été mis un
tout
petit peu sous les feux de l'actualité, puisque c'était les locaux qui étaient loués aux mutuelles de Bretagne. Et c'était M. Ferrand, avec sa compagne, qui avait acheté les biens en SCI et qui les louait à l'activité. Bon, tout ça, alors ça, c'est extrêmement courant. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, de professions libérales, de commerçants, d'artisans, qui profitent de ce système-là. Tous ceux qui ont besoin de louer des locaux, en fait, pour leur activité professionnelle, peuvent bien sûr en bénéficier, tout simplement parce que lorsque votre activité est bien lancée, vous avez des revenus, ça tourne, vous arrivez à payer un loyer. Bon, au début, en général, c'est un loyer que vous payez à un tiers pour votre boutique, pour vos bureaux, pour votre usine, etc. Donc, au bout d'un moment, alors vous avez deux choix. Vous avez le choix d'investir au travers de votre entreprise, c'est-à-dire c'est votre entreprise qui achète ses locaux, etc. Et puis vous avez l'autre choix qui peut être intéressant sur le plan du patrimoine personnel, c'est d'acheter vous-même en tant que personne physique les biens qui vous intéressent pour votre activité, ou alors au travers d'une SCI. C'est pas indispensable, mais vous pouvez le faire au travers d'une SCI.
Ça change quoi, juste Stéphane, entre à titre personnel ou SCI ?
Ça change pas grand-chose, simplement. D'accord. En SCI, vous pouvez mettre vos enfants pour la préparation de la retraite.
De la succession.
Et éventuellement aussi en SCI à l'IS, mais il y a de fortes contraintes aussi. Mais bon, donc c'est un véhicule qui est assez bien adapté aussi. Et tout simplement, votre SCI, alors la SCI, l'avantage c'est que vous pouvez avoir des associés professionnels, notamment si dans votre activité professionnel, vous avez des associés, autant se grouper entre associés pour ensuite se louer ses biens. Ça permet aussi de diluer le risque, de multiplier les capacités d'investissement, de financement, etc. Donc il y a quand même aussi quelques avantages. Donc cette SCI ensuite loue le bien à votre entreprise, à votre activité commerciale, en entreprise ou pas d'ailleurs, si vous êtes profession libérale, vous pouvez être loué aussi. La SCI loue à votre activité professionnelle. Donc, alors attention, là c'est encadré aussi, il faut que ça corresponde à une vraie valeur de loyer. Ça ne peut pas être un loyer plus fort. Voilà, ça ne peut pas être un loyer beaucoup plus fort qui rembourserait la totalité de votre emprunt ou plus. C'est-à-dire genre de tirer sur la trésorerie de la boîte pour effectivement vous enrichir, vous, à titre personnel. Donc ça ne marche pas. De la même façon, ça ne peut pas être un loyer également très nettement en dessous du marché, parce qu'on pourrait considérer que vous n'avez pas assez de revenus fonciers. Donc là aussi, il y a effectivement
suspicion,
un manque à gagner. Ouais. Effectivement, notamment pour l'État, etc. Enfin bon, bref, en termes d'impôts, etc. Donc voilà, il faut que le loyer corresponde au marché. Sinon, ça peut être considéré comme un acte anormal de gestion, ni plus ni moins que le marché.
Et ça, qui c'est qui contrôle ça ?
Alors bah c'est pas contrôlé tous les ans en permanence, c'est simplement si vous avez un contrôle, un jour si vous avez un contrôle ou si votre entreprise a un contrôle, URSSAF, etc. Mmh. Bon, ils vont venir voir dans tous les détails et puis dire votre loyer, qui c'est le propriétaire, etc. Bon voilà, donc ils rentrent un petit peu à l'occasion d'un contrôle, soit sur le plan personnel, soit sur le plan de l'entreprise, pour être amené à rendre des comptes entre guillemets, enfin en tout cas à justifier le fait que ce n'est pas au détriment de l'entreprise, ni à un avantage très important pour l'entreprise. Il faut que ça corresponde, et il faut que le loyer corresponde à, effectivement, à un loyer marché, tout simplement.
D'accord. Et si autant de chefs d'entreprise le font, c'est qu'on imagine qu'il y a, bien sûr, enfin, que c'est un bon placement.
Oui. Alors, c'est un bon placement, déjà, parce qu'en immobilier commercial, on a des rendements qui sont plus élevés qu'en immobilier d'habitation. Parce que effectivement, notamment en immobilier commercial, il y a plus de carences. On peut mettre un certain temps entre deux locataires à retrouver un locataire. Donc il y a plus de risques également. Il y a quasiment pas d'assurance loyer impayé qui garantisse un risque commercial, etc. Donc on le constate, on le voit partout. Les rendements sont plus élevés.
Bon, de manière générale, tout ce qui concerne les pros est toujours plus élevé.
Oui, tout à fait. C'est plus élevé. Donc on arrive sans trop de problèmes à on constate sur le marché des locaux professionnels, boutiques, etc., on constate des rendements de 6-7% encore aujourd'hui.
Voilà, alors ce qui est énorme.
Tout à fait, c'est tout à fait intéressant. Alors, je ne vous parle pas du triangle d'or parisien où là, on est rendu à peine à 4%, mais disons, en général, en moyenne, sur n'importe quelle métropole, ville moyenne ou quartier classique, y compris de la région parisienne, on va arriver sans trop de problèmes à des rendements de 6 ou 7%. À cause de cette prise de risque, justement, en tant qu'investisseur sur le commercial. Mais là, la prise de risque, elle est relative.
Ben oui,
parce que votre locataire, c'est vous-même. Enfin, en tout cas, c'est votre activité. Donc, si votre activité est pérenne, s'il y a de bons résultats, si ça tourne en quelque sorte, vous gardez la prime de risque, mais vous abandonnez le risque.
A-t-on déjà eu le cas d'ailleurs de quelqu'un qui se louerait à soi-même et qui ne paierait pas son loyer ?
Bah oui, ça certainement, ça a dû arriver.
Oui, c'est quand même incroyable arriver, ça.
Oui, tout à fait. Mais enfin bon, voilà, quand on est chef d'entreprise, qu'on peut avoir à un moment donné des difficultés, quand on se le paye à soi-même, son loyer, on va se le payer quand même, quoi. On va peut-être tirer sur d'autres postes. Mais celui-ci, peut-être pas tout de suite, en tout cas. En tout cas, moins facilement que si le bailleur est un tiers, etc.
Et donc, du coup, c'est vrai qu'on est assez libre, du coup, puisque on rappelle qu'en matière commerciale, quand même, beaucoup de choses sont à la charge du locataire.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, l'avantage, effectivement, aussi, c'est que, on l'a dit, votre locataire, c'est vous. Il est un peu près fiable, comme on disait. Il est, effectivement, plutôt sympathique. Il va pas vous emmerder tous les quatre matins, puisque vous le connaissez bien. Il va, la plupart du temps, effectivement, prendre la taxe foncière à sa charge. Hein, ça, sur les baux commerciaux, c'est aujourd'hui les nouveaux baux commerciaux depuis 10-15 ans. C'est quasiment la totalité des baux commerciaux qui mettent la taxe foncière à la charge du preneur, du locataire. Donc, vous n'avez même pas de taxe foncière. Les travaux, là, vous pouvez faire un petit peu comme ça vous arrange. Si vous avez effectivement un intérêt, vous, en tant que personne physique ou SCI, à faire des travaux, c'est pas inintéressant parce que ça vous crée du déficit ensuite qui vont absorber vos loyers. Donc ça peut être intéressant de faire vous-même des travaux. Ou alors, c'est le locataire qui fait les travaux parce que ça améliore son fonds de commerce. Donc là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez ventiler, d'ailleurs, y compris, ventiler une partie des travaux. Prendre des travaux pour vous, en laisser un peu à votre locataire, à votre activité, qui peut financer, y compris, ses travaux. Enfin bon, voilà, vous pouvez gérer un petit peu comme vous voulez sur les travaux. Donc là aussi, il y a pas mal d'intérêt.
Et du coup, si j'ai beaucoup, beaucoup de travaux, je peux m'octroyer éventuellement une franchise de loyer ?
Oui, tout à fait. Il faut que ça... Alors, le fil conducteur, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'acte anormal. Il faut faire comme si c'était un bailleur classique, un locataire classique. Il ne faut pas trop tirer sur la corde non plus. Si vous faites des travaux absolument somptueux dans vos bureaux, dans votre boutique, qui coûtent une fortune en tant que locataire à votre activité commerciale, et que vous ne faites même pas un petit geste sur le loyer, etc., bon, ça peut tiquer. Donc, encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que ce soit... Il faut qu'il y ait un équilibre, comme si c'était des tiers XY. Il ne faut pas avantagez-vous.
Une relation sincère avec soi-même.
Voilà, c'est à fait. Il faut pas trop s'avantager, il faut pas trop avantager son entreprise, ni la léser, etc. Il faut que ça corresponde à des données à peu près tangibles, normales, qu'on peut voir à tous les coins de rue, quoi.
Et l'impôt sur la fortune immobilière, qu'en est-il dans ces situations-là?
Alors ben là, vous avez un avantage aussi, et c'est quand même assez surprenant. Moi, ça m'a toujours surpris parce que, alors, si effectivement vous êtes considéré par rapport à l'ancien système de l'ISF, si votre entreprise est considérée comme votre outil de travail, c'est-à-dire il faut détenir plus de 25% des parts et puis être un des dirigeants de l'entreprise.
D'accord.
Donc si vous rentrez dans ce cas-là, même si vous détenez les murs commerciaux en nom propre à titre personnel, c'est-à-dire
d'accord,
qu'ils n'appartiennent pas à l'entreprise, ils sont aussi considérés comme outils de travail. Donc ils ne rentrent pas dans votre IFI si vous êtes à l'IFI. Ou ça peut vous permettre de ne pas rentrer à l'IFI si vous avez une très grande boutique, des très grands bureaux,
des
etc.,
bureaux,
qui peuvent valoir quand même un certain prix.
Si
effectivement vous êtes dans les... Vous êtes exploitant, vous avez plus de 25%, vous êtes 4 dirigeants, vous avez plus de 25% de départ de votre entreprise, donc ça, c'est considéré comme outil de travail, même si c'est détenu en fonds propres. C'est vrai que c'est un peu surprenant, mais bon, pour une fois qu'il y a une chose surprenante, effectivement, qui soit plutôt à l'avantage du contribuable, on ne va pas trop se plaindre.
Non, c'est certain, c'est certain. Et à part, du coup, les murs commerciaux, bureaux, pour un logement, ça pourrait fonctionner?
Alors, il y a quelques cas très précis où c'est accepté, effectivement, de louer notamment un logement, de louer en quelque sorte votre propre logement aussi. C'est lorsque, notamment, vous avez, si par exemple en tant que chef d'entreprise, vous êtes amené à vous déplacer très souvent sur une filiale. Vous allez toutes les semaines, plusieurs jours par semaine, à tel ou tel endroit, c'est récurrent, etc. Ou alors une zone de production, ou que sais-je. Eh bien, plutôt là aussi que de consommer de l'hôtel tous les jours, ou 2-3 demi par semaine, qui va finir par coûter quand même assez cher à l'entreprise, le réflexe normal, c'est d'aller louer un appartement. Voilà, louer un appartement.
Ce que font beaucoup de sociétés.
Ce que font beaucoup de sociétés.
Pour leurs expats. Pour
voilà, ouais, tout à fait. Donc, bon, voilà, vous louez un appartement, ça vous coûte un peu moins cher, vous pouvez y laisser des affaires, etc. Bon. Donc, ça, c'est assez classique. Donc, si, dans la mesure où vous avez de façon récurrente cette charge pour l'entreprise, eh bien, à un moment donné, vous pouvez décider d'acheter vous-même un logement, en SCI ou en nom propre, peu importe, et la louer. Là également, à votre entreprise, ça pose pas de soucis. Parce que là aussi, c'est un équilibre. Pour l'entreprise, ça l'arrange, elle paye un peu moins cher que l'hôtel. Et puis pour vous, bah, ça fait pas de différence. Vous avez des revenus fonciers, effectivement. Bon, voilà. Donc, il n'y a pas de préjudice, il n'y a pas de personne n'est lésée. Donc, spécialement l'entreprise. Donc là, ça passe sans problème. L'autre cas qui est très souvent, et que j'utilise moi, par exemple, moi-même pour mon entreprise, on a, nous, des collaborateurs à Lyon, à Bordeaux, à Lille, qui viennent très souvent aussi au siège pour se former, pour réaliser des affaires, etc. Puis des stagiaires également qui viennent de nos filiales en région pour se former également à Paris pendant la première partie de la formation qui dure quand même quelques semaines, etc. Ben là, de la même façon, plutôt que de louer de l'hôtel à l'année avec le prix des hôtels quand même à Paris qui sont pas donnés, eh bien, on loue en permanence depuis très longtemps un ou deux appartements à proximité des bureaux et ça nous coûte beaucoup moins cher. Et puis, parfois, certains de ces logements, ils peuvent nous appartenir à moi, à mes associés, etc. Et puis, voilà. Donc ça, c'est aussi l'avantage de pouvoir louer des logements. Encore une fois, du moment que l'entreprise n'est pas lésée, voire même que ça lui rapporte un petit peu, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait accepté.
Alors j'ai une question du coup, parce que là je comprends tout à fait qu'effectivement on achète un logement pour se le louer à soi-même, mais on parle plutôt là on ne parle pas de résidence principale, c'est-à-dire que si j'achète ma résidence principale et je loue une partie de mon logement à mon entreprise.
Oui, alors ça c'est possible aussi. Alors ça, c'est possible aussi. Alors à l'entreprise, oui, c'est possible éventuellement. Alors notamment dans le cadre du télétravail, non, ça c'est pas. Enfin, j'ai pas vu de cas où c'était accepté. Mais par contre, vous pouvez. Alors par exemple, ce que je vois très souvent, vous pouvez. Vous êtes propriétaire de votre logement. Vous avez une activité commerciale que vous exercez à votre domicile.
Oui.
Donc là, vous pouvez louer une pièce, un bureau. Voilà, vous pouvez tout à fait louer et passer en charge de votre entreprise, plutôt que de louer effectivement un tiers, un bureau XY à côté de chez vous. Vous pouvez tout à fait donc louer à votre activité un bureau. Alors là aussi, il faut que les loyers soient raisonnables. Hein, si c'est des loyers de plusieurs milliers d'euros pour un bureau, bon, vous avez de bonnes chances d'être retoqué, mais vous pouvez tout à fait, effectivement, dans ce cas-là, sur une activité libérale, ou si c'est votre société, vous pouvez louer une partie de votre résidence principale à votre activité, ça pose pas de souci.
Ce qui permet éventuellement, pareil, de prendre en charge finalement par la société une partie de son crédit immobilier.
Tout à fait.
Très bien. Et au niveau de la fiscalité par rapport à tout ça,
La fiscalité, le problème, c'est que tout ce qui est locaux commerciaux, etc., là, on est obligatoirement en revenu foncier. Donc, revenu foncier, on le sait, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est massacre à la tronçonneuse. C'est-à-dire que, alors là, a fortiori, surtout si vous n'avez pas de taxe foncière, si vous n'avez pas de travaux, si c'est votre locataire qui fait les travaux, ça rentre plein pot très vite. Alors, vous déduisez un tout petit peu de charges et surtout vos intérêts d'emprunt, parce que l'intérêt, c'est aussi d'emprunter pour ce type d'opération. Mais les intérêts sont encore très bas, même s'ils ont monté un petit peu. Donc, votre loyer, il est très vite taxé à la tranche marginale, à votre tranche marginale d'imposition plus CSG à 17,2. Donc, vous êtes tout de suite, dès que vous êtes imposable, entre un tiers et deux tiers des loyers nets qui repartent en impôts. Donc, c'est très douloureux. Donc, il faut une stratégie à mettre en place pour aller travailler cet impôt-là, quoi. Parce que sinon, vous en redonnez quand même, effectivement. Une grosse partie. Donc, il faut une stratégie. Il faut être accompagné pour avoir une stratégie. Donc, pour travailler cet impôt-là.
Alors, on a parlé d'acheter, on a parlé de louer, mais que se passe-t-il si je veux revendre ?
Alors, si vous vendez effectivement, l'intérêt d'avoir d'un côté votre fonds de commerce, votre activité commerciale et de l'autre côté les murs, c'est que vous pouvez vendre l'un ou l'autre ou les deux.
Oui, ce qui est quand même une particularité française, on le précise, la notion de fonds de commerce, je crois que ça n'existe pas partout.
Oui,
on va revendre les murs et le fonds et ce sera vraiment deux entités juridiques distinctes.
Tout à fait. Alors, a fortiori, quand les propriétaires sont sur des choses différentes, des schémas différents, mais voilà, donc l'intérêt, c'est que comme les deux sont dissociés, plutôt que ce soit l'entreprise qui achète les locaux, vous pouvez vendre, si vous vendez l'entreprise toute seule, vous la vendez moins cher. Vous pouvez vendre aussi les murs au repreneur, si ça l'intéresse, ou alors si le repreneur, bien sûr, ça ne l'intéresse pas d'acheter ou qu'il ne peut pas, parfois, si déjà il a payé le fonds de commerce ou l'entreprise ou l'activité commerciale, il ne peut pas forcément faire les deux. Donc vous pouvez effectivement, à ce moment-là, continuer à louer, donc ça vous fait un complément de revenu, notamment la retraite. Là, par contre, le problème, c'est que vous ne maîtrisez plus, effectivement, le locataire. C'est-à-dire que si, au bout d'un moment, il se dit, c'est trop petit ou c'est plus adapté, il s'en va, ma foi, vous n'avez plus la sécurité d'avant. Et de la même façon, si vous êtes à l'IFI, là, du coup, ça rentre dans votre IFI, puisque ce n'est plus vous qui êtes dans les bureaux, etc. Donc, pour l'IFI, ça ne marche plus. Et effectivement, la sécurité, elle n'est plus du tout relative. Là, vous êtes dans un marché normal. Mais enfin, on peut imaginer que c'est après un certain nombre d'années que là, vous n'avez plus de crédit ou très peu de remboursement. Donc bon, si vous avez un petit peu des à-coups de loyer à côté, c'est moins grave, disons.
Alors, en somme, pour résumer, avant de se quitter, Stéphane.
Oui.
Vous vendez le bien, mais à vous-même.
Oui. Tout à fait.
Vous créez une SCI ou une SARL de famille.
Alors là, il y a le cas aussi en onanisme immobilier où effectivement, il s'agit plus de se louer à soi-même, mais il s'agit de se vendre à soi-même. Donc ça aussi, c'est... Alors attention, c'est très encadré. Les cas où ça peut être intéressant, c'est par exemple, vous avez un bien que vous détenez depuis très longtemps. Donc là, vous avez pas forcément de travaux à faire, vous avez plus d'intérêt d'emprunt puisque vous avez soldé le crédit, ou alors c'est un bien que vous avez hérité, donc vous n'avez pas d'intérêt d'emprunt. Donc le problème, c'est que vous êtes surfiscalisé sur ce bien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça rentre plein pot dans votre tranche d'imposition, plus la CSG. Donc vous êtes très vite dans des proportions d'impôts très importantes. Par ailleurs, vous avez par exemple des enfants. Vous souhaitez commencer à préparer votre succession. Et dans le même temps, ce bien, vous dites, le vendre, oui, c'est bien, je pourrais récupérer l'argent, peut-être acheter une résidence secondaire pour mes vieux jours, ou en faire autre chose, des véhicules de collection, que sais-je. Mais vous dites, ce patrimoine, quand même, ce serait pas mal de le transmettre à mes enfants. Donc, il y a des montages qui sont assez courants, effectivement. Alors, les anglo-saxons appellent ça un OBO, un owner buyout, donc un rachat à soi-même en français. Donc, le système classique, c'est que le bien que vous détenez, vous, à titre personnel, tout seul, vous allez le vendre à une SCI, par exemple, qui sera, par exemple, vous, dans la SCI, vous allez avoir 50%, Vos enfants, vous avez deux enfants, ils auront chacun 25%. Donc c'est bien parce que comme ça, vous préparez votre succession, etc. Cette SCI emprunte la quasi-totalité, donc ça aussi c'est l'intérêt. L'intérêt surtout pour vous en tant que propriétaire, c'est que vous touchez l'argent de la vente. C'est pas mal.
C'est pas négligeable.
Et vous restez propriétaire quand même. Donc c'est le beurre et l'argent du beurre. Donc vous touchez l'argent de la vente qui vous permet de réorganiser votre patrimoine, peut-être de solder d'autres crédits ou d'acheter une résidence secondaire sympa, etc. Et vous restez propriétaire du bien, en tout cas avec votre famille, avec vos enfants. Et l'intérêt aussi, c'est que sur le plan fiscal, comme vous avez fait un prêt à 100% derrière, vous avez effectivement beaucoup d'intérêts d'emprunt, en tout cas au début, à déduire, donc vous avez moins de fiscalité. Ça c'est l'avantage aussi. Et alors, le cas échéant, vous pouvez partir aussi sur plutôt une location meublée, auquel cas il ne faudra pas faire une SCI, mais créer une SARL de famille, auquel cas, là, vous pourrez faire de la location meublée, si le bien, effectivement, le permet, s'il est adapté à la location meublée. Donc ça aussi, la vente à soi-même, ça peut être intéressant. Mmh. Alors attention, il faut quand même faire les choses dans les règles. Là aussi, si vous vous rachetez à vous tout seul votre bien, vous vous faites retoquer, puisque c'est une opération à but uniquement fiscal, c'est du mini à but de droit. Si vous êtes propriétaire à 100% d'un bien, vous créez une SCI à 99%, vous le rachetez, ça passe pas. Ça se comprend, puisque là, c'est uniquement à but fiscal, etc. Il faut qu'il y ait une vraie logique de transmission, notamment.
On fait ça plutôt avec des enfants petits ou avec des enfants déjà majeurs ?
Alors, plutôt avec des enfants déjà majeurs, parce que si vous êtes avec des enfants mineurs, une réglementation avec des juges et des tutelles, etc., c'est un peu plus lourd.
Ouais.
Alors surtout s'il y a un emprunt, donc ça un emprunt sur une SCI avec des enfants mineurs, ça c'est pas terrible. Mais bon, les enfants sont vite majeurs, voilà.
Oui, à 18 ans, rien que ça. Bon, après, faut bien s'entendre avec ses enfants.
18 ans, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais il faut des bons statuts de SCI. Oui. Il faut monter des bons statuts avec des clauses assez serrées, notamment pour la revente. Pas faire n'importe quoi sur la revente, l'argent, etc.
Si t'es pas sage, tu vas au coin.
Ouais, voilà. Mais ça, c'est possible. Mais c'est sûr qu'il faut pas apprendre des statuts de SCI sur Internet comme ça ou sur, il faut faire les choses comme il faut.
Dans les règles de l'art.
Dans les règles de l'art. Il faut tenir une vraie comptabilité aussi sur la SCI, faire des vraies assemblées générales, etc. pour que ça passe. Alors attention, c'est pas sans risque, ça peut être un peu touchy. Donc il faut le faire dans les règles de l'art,
proprement.
Être accompagné effectivement par des gens qui vont pouvoir vous éviter les écueils et les pièges de ce type de montage. Mais il y en a des milliers qui se réalisent tous les ans et ça peut être tout à fait opportun.
Eh ben écoutez Stéphane, je suis ravie, je crois qu'on a fait le tour de ce sujet. On a bien compris les tenants et les aboutissants de l'onanisme immobilier. Elle est mise se termine. Merci chers fidèles auditeurs. Stéphane, bien sûr, merci à vous pour tous ces précieux conseils. Merci à la technique. On se retrouve le mois prochain. À très bientôt sur Radio Immo.
La maison de l'investisseur, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.